Aujourd'hui, la masterclass d'Ariane Ascaride avec Caroline Brouet.
Et bonjour à tout le monde. Vraiment tout le monde, merci beaucoup. On est très heureuses, Ariane Ascaride et moi, que vous soyez venus très nombreux, si nombreux, pour assister à cette masterclass. Je ne sais pas bien s'il est très utile de présenter Ariane Ascaride. De toute façon, nous allons profiter de cette heure de discussion, elle et moi, pour qu'elle se présente, pour qu'on approfondisse et qu'on fasse connaissance ensemble. Ce que je peux dire, c'est qu'Ariane Ascaride est une comédienne et une actrice. Une actrice et une comédienne. Tiens, ça peut être ma première question. Actrice et ou comédienne, est-ce que ça a un sens, la différence, la distinction que l'on fait en général entre théâtre et cinéma, Ariane Ascaride ?
Oui, bah moi je suis d'abord comédienne. Ma formation à moi, c'est le théâtre. Je viens du théâtre. Et j'y retourne régulièrement parce que j'en ai besoin. Et puis, une comédienne, quand elle joue un spectacle, au début du spectacle, quand le spectacle commence, c'est elle ou lui qui devient le capitaine du bateau, parce qu'il faut emmener le bateau de l'autre côté. Un acteur ou une actrice, ce sont des gens très talentueux, mais qui jouent des séquences, et après, ils ne savent pas du tout comment elles vont être montées. Donc, si vous voulez, on n'a pas comme ça le leadership, je dirais, de notre travail. Donc, je préfère comédienne.
Mais c'est votre père qui vous a fait monter sur scène ?
Oui, voilà.
Et si je ne m'abuse, c'est ce que vous racontez dans Une force et une consolation, le livre d'entretien que vous avez réalisé avec Véronique Olmy cette année. Il a suffi que vous disiez mouton.
Oui. Parce que moi, quand j'étais petite, je suis donc née, enfin, j'apprends rien à personne, je suis donc née à Marseille. À la maison, je parlais comme ça, quoi. Et mon père faisait du théâtre amateur. Bien avant que je naisse, enfin, je pense que c'est ce qui lui a permis de tenir le coup, d'ailleurs. Et donc, avec cette troupe de théâtre, il montait un drame qui se passait pendant l'Empire romain, où il y avait Claude de Lyon, Agrippine, Drusilla, Caligula, Néron, enfin, il y avait tout le monde, Messaline et j'en passe. Et Drusilla, la sœur de Caligula, était une petite fille. Donc mon père m'a emmenée un samedi après-midi à la répétition, sans me dire pourquoi, je ne savais pas du tout. Et donc je me suis retrouvée face à des adultes, et il a dit au chef de troupe, vous allez voir la petite, elle va y arriver. Et il m'a dit, dis mouton. Donc j'ai dit, mouton. Et il a dit, bah voyez, elle peut le faire. Et voilà.
Sans accent, c'est ça.
Sans accent. Ça, le truc. Voilà, le truc était qu'il fallait pas avoir d'accent. Or, en fait, maintenant, quand j'y repense, je pense que tous ces gens qui faisaient du théâtre amateur avaient ce qu'on appelle à Marseille, s'il y a des gens marseillais ici, ils vont comprendre, tous ces gens avaient l'accent jambon. L'accent jambon, c'est ce que fait très très bien Philippe Cobert. C'est-à-dire que dans les quartiers bourgeois de Marseille, on essaye de parler sans accent. Vous voyez, on parle comme ça. Et vous repérez tout de suite d'où est la personne quand vous la croisez dans la rue, si elle vous dit bonjour. Là, vous dites, ah, rue Paradis. Et voilà, c'est l'accent jambon. Il faut demander à Philippe Cobert de vous le faire, c'est le roi de ça.
Il y a l'accent de Marseille, Ariane Ascaride, qui vous a faite, qui vous a construite. Vous tournez quand même beaucoup à Marseille, dans vos films, on va y revenir. Mais il y a aussi un petit peu d'Italie. Alors là, c'est encore un autre accent, l'Italie. Mais vous avez des origines italiennes.
Napolitaines.
Est-ce que cela, Marseille et l'Italie, est-ce que cela a eu un rôle, une place particulière au début? On est toujours au commencement. Là.
Une place très particulière, pour la bonne raison que mon père ne voulait absolument pas. Mon père faisait partie de cette vague d'immigration italienne. Enfin, ses parents qui avaient fait le voyage, qui étaient partis d'Amalfi et qui étaient allés à New York. Et ma grand-mère avait tellement eu peur à New York qu'au bout d'un an, mon grand-père a repris le bateau. Ils sont arrivés à Marseille. Et à Marseille, à cette époque-là, il y avait vraiment tout un quartier qui était une Little Italy, comme il peut y avoir une Little Italy ou une Little Arménie à Los Angeles. Et donc, mon père est de là. Et quand même, les Italiens, c'était des ritales, c'était des voleurs, c'était des moins que rien. Vous savez, chaque fois que la dernière vague d'immigration arrive, c'est les moins que rien. Hein, tout le monde est d'accord. Je suis sûre qu'ici, il y a beaucoup d'enfants d'immigrés espagnols ou des choses comme ça. Ils connaissent par cœur ce que je suis en train de dire. Donc mon père a voulu absolument se sortir de là. Et donc après, quand on est né, il n'a jamais voulu nous apprendre l'italien. Or, j'avais une grand-mère italienne qui était on ne peut plus italienne et qui faisait un truc, je pense qu'un jour, si je fais un film, je le mettrai parce que c'était tellement génial, qui arrivait des fois la nuit à 2h du matin, on habitait au rez-de-chaussée chez nous à Marseille, et elle tapait à la vitre de la fenêtre qui donnait sur la rue de notre appartement, et elle tapait à la vitre en disant « Sto morendo !» Elle avait fait 1 kilomètre à pied pour venir de chez elle à chez nous, pour venir faire chier mon père, tout simplement, qui se levait en pyjama, ouvrait la fenêtre à 2h du matin, hurlait en lui disant « Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Va te coucher, sta morendo, sta morendo !» Et donc, il mettait son pardessus sur son pyjama, prenait la 403 et raccompagnait sa mère à la maison. Et ça, je pense qu'il y avait aussi ça dans ma famille. Il y a toujours eu un peu un sens comme ça du théâtral, même si ma grand-mère ne le faisait pas exprès. Mais c'était un prototype de belle-mère épouvantable quand même pour ma mère. Et donc, toujours est-il que mon père ne voulait pas nous apprendre particulièrement l'italien, mais surtout le napolitain, puisqu'il parlait de napolitain. Et plus tard, bon, donc je suis allée au lycée et j'ai décidé d'apprendre l'italien. Et puis, bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour moi avec cette langue et j'ai vraiment travaillé cette langue. Et après, je suis allée beaucoup en Italie et je vais beaucoup en Italie. Mais quand je revenais chez moi, que je parlais à mon père en italien, il me répondait en français parce qu'il fallait être français. Vous comprenez cette volonté d'intégration qui était très, 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 très forte, quoi. Et aujourd'hui, alors un de mes orgueils, c'est que j'ai fait 2 films en Italie, en italien. Voilà, ça fait partie de... C'est un peu tarte, mais je pense que si j'ai eu un prix à Rome, on a le prix de la critique italienne cette année avec Robert, on va le chercher à Florence. Je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir, mais parce que je pense que nous portons tout le temps nos racines avec nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je viens de ces gens extrêmement pauvres d'Amalfi et de Naples. Nous portons nos aïeux sur nos épaules. C'est pas vrai, ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Il suffit pas d'une seule génération. Il en faut beaucoup, beaucoup plus. Pour, comme quand on est fils de pauvres, pour devenir un vrai bourgeois. Moi, je pense que mes filles commencent à être des vraies bourgeoises. Mais mes grands-parents, mes parents, moi, on a raté notre coup complet. Moi, j'ai commencé à, voyez, investir certains bastions, mais mes filles, et alors leurs enfants, ça j'en suis sûre, ils seront des bourgeois pourris.
Oh ouais. Ariane Mascarille, en tous les cas, vous venez de là, de cette famille qui était déjà une scène de théâtre à elle toute seule. À un moment, il faut bien sortir de cette famille, il faut bien la quitter, peut-être pour mieux y revenir, ou par le biais d'une autre famille qu'on s'est choisie, celle-ci. Vous êtes allée faire le Conservatoire National d'Art Dramatique à Paris. Et vous y êtes allée poursuivre les cours de Marcel Bluval et d'Antoine Vitez. Qu'est-ce que vous y avez appris?
C'est la chance de ma vie, Yode. Parce que sinon je ne serais jamais entrée au conservatoire. Il y a une chose qu'il faut dire d'abord, c'est qu'à cette époque-là, il y a un monsieur qui est devenu directeur du conservatoire, un homme adorable qui s'appelle Jacques Rosner. Et Jacques a eu à cœur de faire entrer des professeurs à l'intérieur du conservatoire. Antoine était déjà là, hein, mais de faire entrer des hommes qui étaient différents, qui, comme ça, auraient envie de faire venir dans ce bastion du théâtre français... contemporain, conventionnel et traditionnel, qui était quand même l'antichambre de la Comédie française. J'ai rien contre la Comédie française, attention. Et de faire entrer des jeunes gens qui viendraient d'horizons différents. Donc, il a proposé à Marcel Bluval, il y a eu Marcel Bluval, il y a eu un monsieur qui est décédé cette année et que j'aimais profondément, avec qui j'ai joué après plus tard au théâtre, qui s'appelle Pierre Debauche, qui est un metteur en scène, auteur, poète, belge, et qui était vraiment un homme extraordinaire. Et voilà, je voulais vraiment... Il nous manque beaucoup. Et donc, ces gens-là, qui étaient donc au jury du concours d'entrée quand même, en tant que professeurs, sont mis à regarder des jeunes gens qui arrivaient avec un background un peu différent. Et moi, de mon côté, je ne voulais passer le concours du conservatoire que parce qu'il y avait ces gens-là. Et aussi parce que j'avais pas un rond et que si je le réussissais pas, je pourrais jamais faire des études de théâtre. Je pouvais pas me payer un cours privé, c'était impossible. Et puis j'étais très orgueilleuse, je voulais aller dans la meilleure école. Donc je leur dois beaucoup, je suis entrée là. Et que ce soit Antoine autrement, qui était un immense intellectuel et en même temps qui parlait de l'élitisme pour tous... Et je vous conseille de relire ses livres. Et Marcel, qui reste et qui est mon père d'adoption, mon ami, mon confident, et quelqu'un qui m'a appris énormément de choses, soutenu Robert, qui a soutenu Robert au début où nous faisions du cinéma, ainsi que Daniel Lebrun. Je tiens à le dire parce que vous savez, quand vous commencez, il n'y a pas tant de gens. Donc ces hommes-là qui étaient des gens qui pensaient, Antoine, Marcel et Pierre, chacun avec leur monde, étaient en même temps des gens qui pensaient théâtre populaire, qui pensaient culture pour tous, et qui nous ont appris énormément de choses, que ce soit à Dominique Raymond, à Catherine Fraud, à Jean-Pierre Darroussin, à Jean-Hugues Anglade, à Robin Renucci, puisque nous sommes tous arrivés à ce moment-là. Vous voyez, et c'était des hommes. Enfin, Antoine, il faisait des cours sur le langage. Vous pouvez pas imaginer. J'ai appris des millions de choses avec eux. Et c'était ça qui était bien, c'est-à-dire que bon, moi, j'avais fait des études supérieures parce que dans ma famille, il n'était pas question de rigoler. Mais j'avais des copains qui n'avaient pas fait d'études et qui arrivaient et qui, comme ça, ces professeurs-là faisaient vraiment leur boulot de pédagogue, c'est-à-dire qu'ils leur donnaient envie de lire. Et d'apprendre.
Il y avait Ariane Ascari, de ces hommes de théâtre, grands pédagogues, qui vous ont tant appris. Vous aviez, en entrant au Conservatoire d'art dramatique de Paris, est-ce que vous aviez des figures référentes, des acteurs et des actrices auxquels vous auriez aimé ressembler ?
Maria Cazares. C'est pas très compliqué, hein. Et puis Gérard Philippe, mais j'étais une fille. Vous voyez, donc... il y avait comme ça des... Oui, bien sûr, il y a comme ça des... Maria Cazares, la première fois que je l'ai vue jouer, je suis restée comme un chien en arrêt, vous savez, comme à la chasse, quoi. J'ai regardé cette dame et je me suis dit... mais comment elle fait ? J'arrive... Et d'ailleurs, c'est bien, j'ai toujours pas compris comment elle faisait, mais il faut pas comprendre. Mais j'étais fascinée par... C'est-à-dire que quand elle entrait sur scène, elle aspirait tout l'air de la salle. Ça tout devenait compact. Et tout le monde était... Tous les regards étaient sur elle. Et si elle bougeait un petit doigt, il n'y avait pas un des spectateurs qui ne le voyait pas. Et puis j'aimais ce qu'elle était, quoi, tout simplement. Aussi en tant que personne, vous voyez. Et voilà, des comédiennes, une comédienne italienne qu'après j'avais vue chez Streller parce que j'ai eu la chance de voir la Cerisée, enfin, et le Campiello, quand Streller est venu à l'Odéon, qui était à ce moment-là Théâtre de l'Europe, une comédienne que plus personne connaît maintenant, mais qui s'appelle Valentina Cortese, et qui jouait Lyubov, et voilà, moi, ce que j'aimais, c'était ça, c'était de voir des immenses comédiennes où on ne sait pas. C'est ça qui est beau, c'est qu'on ne sait pas comment ils font. Et d'ailleurs, c'est ça le principe, il faut pas savoir. Ce qui est très embêtant, c'est quand des comédiens vous montrent comment ils font, parce qu'ils veulent vous montrer qu'ils sont intelligents. Or, quand on est comédien, quand on joue, je dis bien quand on joue, au moment où on joue, il faut pas être intelligent, il faut juste être. Et ça, c'est très très important. Et c'est vraiment, des fois, le défaut du théâtre français. Ou le théâtre français, même le cinéma français. Heureusement, il y a aujourd'hui plein de jeunes réalisatrices et de jeunes réalisateurs qui font un travail absolument, absolument formidable. Mais ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est au moment où vous jouez, ne soyez pas intelligent. Ça sert à rien. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement avoir beaucoup, beaucoup travaillé avant pour avoir tout digéré. Et puis lâcher le bateau.
Ça, c'est pas toujours vrai au cinéma comme au théâtre, Ariane Ascaride. Parce que sur La Villa, qui est le dernier film que vous avez tourné avec Robert Guédiguian, et on va y venir, vous dites vous-même que vous n'avez pas tellement travaillé ce rôle-là. Vous l'avez joué comme il venait.
Ah non, mais ça, c'est au cinéma.
Ouais, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas pareil. Quand on est au cinéma,
non,
au théâtre, on ne peut
au
pas
théâtre.
Se permettre
non,
ça.
Non. Au cinéma. Non, mais au théâtre, on travaille beaucoup, beaucoup avant, pendant les répétitions. Mais moi, si vous me demandez avant d'entrer en scène, quand je joue avec Simon Abkarian, ce que je vais faire, oui, je le sais, parce qu'on a une mise en scène très définie. Mais après, je m'en vais, je plonge. Vous savez, moi, il y a des gens qui me fascinent parce qu'ils font du saut à l'élastique. Moi, ça me fait très, très peur. Mais moi, je fais du saut à l'élastique tous les soirs quand je rentre sur scène ou quand je vais tourner une prise. Mais demandez-moi ce que je vais faire. Alors là, au cinéma, c'est pire. Demandez-moi ce que je vais faire juste avant la prise. Je suis incapable de vous le dire.
Mais incapable. Ça vient de quoi, alors?
Parce que j'ai envie d'avoir peur. J'aime me faire peur. Au cinéma, particulièrement. Si je contrôle tout au cinéma. Le cinéma, c'est une chose géniale parce que dans une prise, il peut arriver à un moment donné quelque chose qu'on n'a pas du tout imaginé. Il faut être assez ouvert pour arriver à attraper cette chose. Parce que cette chose-là, si vous l'attrapez, ça va enrichir la scène. Vous voyez? Donc, j'avais un professeur japonais qui s'appelait Yutaka Wada au conservatoire, qui était intervenant, qui disait la concentration disponible. Et quand j'étais môme, je disais, mais où on est concentré? Où on est disponible? On peut pas être concentré, disponible. T'es japonais, tu comprends rien, c'est pas possible. Tu dis n'importe quoi. Eh ben non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut être concentré. Peut-être le mot concentré n'est pas obligatoirement le bon. Il faut être plein de ce qu'on va faire, plein du personnage. Il faut le connaître, il faut savoir. Et comme on sait, eh ben on y va comme ça, on est disponible.
Et on y va en une prise. C'est dans le livre, Ariane Ascaride, vous dites qu'il y a des acteurs de la première prise et d'autres de la dixième prise. Moi, j'aurais plutôt tendance à être de la première prise.
Oui, c'est vrai.
C'est pour ça? C'est parce que vous êtes justement déjà pleine de ce rôle, pleine de l'instant présent?
Peut-être, oui. Peut-être, et parce qu'après, je réfléchis. Après la première,
L'intelligence entre en scène.
L'intelligence revient et donc je suis moins bonne. Il faut attendre la septième pour que ça reparte. Et vers la huitième, je recommence à être bonne. Mais sinon, entre la une et la sept, c'est nul.
C'est une boutade quand vous dites que c'est à partir des chaussures que vous trouvez le personnage?
Non, pas du tout, c'est pas du tout une boutade.
Ah bon? Expliquez-nous ça.
Alors, je vous explique. Regardez-vous, personne n'a les mêmes chaussures. Et même s'il y a des gens ici qui ont la même paire de chaussures, ils ne la portent pas de la même manière. Personne n'a la même pied. Les pieds, d'ailleurs c'est rigolo parce que je vais lire un texte sur la marche, l'art de marcher aujourd'hui. Les pieds, c'est ce qui nous stabilise et nous fait tenir sur terre, d'accord? Et nous avons tous une manière particulière de poser notre corps et donc nos pieds sur la terre. Et à partir des pieds, ça va remonter jusqu'au cerveau. Et d'ailleurs, vos amis, même si vous êtes myope, vous pouvez les reconnaître de loin dans la rue juste à leur démarche. Parce que chacun a sa démarche, personne n'a la même. Et donc, chacun choisit une certaine paire de chaussures. On aime ça, on aime ça. Et pourquoi on aime ça? Parce qu'on a un goût, parce qu'on a une vie, parce qu'on a une psychologie, parce qu'on a envie d'eux. Et donc voilà, tout ça remonte dans votre tête et ça fait qui vous êtes.
Donc il y a d'abord le corps, l'attitude, la démarche extérieure, puis l'intériorité à travers les émotions, le sentiment. Et enfin, la raison, mais alors ça, c'est quand on ne devient pas bon.
Voilà, ouais. Enfin, c'est un peu plus compliqué.
Il faut bien que je schématise.
Tout ça se tricote ensemble. Et aussi, il y a que le personnage, souvent, je le cherche dans la rue. Par exemple, Marie-Jo, je l'ai vue entrer un jour dans le métro. Elle était avec sa fille. Je la cherchais, je réfléchissais, parce qu'en fait, vous savez, les comédiens, c'est comme ça, par exemple, vous voyez, le monsieur est en train de faire une photo, peut-être que voilà, je prends ça, je vais m'en servir, je vais le mettre dans un coin de ma tête. En fait, on a des grands greniers dans lesquels on a plein de choses, du bric-à-brac, et puis de temps en temps, on tire un truc de là et on va s'en servir. Et Marie-Jo, j'avais du mal, je trouvais pas exactement. Et un jour, elle est entrée dans le métro. J'ai vu une dame entrer dans le métro. Je me suis dit, c'est elle. Et donc, je l'ai regardé pendant tout le trajet. Et voilà, Marie-Jo, c'était sur la ligne 9, pour tout vous dire.
Du métro parisien, donc. Ariane Ascaride, Marie-Jo, c'est l'une des nombreuses femmes que vous avez interprétées pour les films, que vous avez tournées, notamment avec Robert Guédiguian. Presque la moitié de la filmographie qui est la vôtre a été réalisée avec celui qui est devenu votre mari.
Non, celui qui était d'abord mon mari.
Celui qui était d'abord votre mari. C'est justement pour ça que je voulais revenir à quand vous vous êtes rencontrés, parce que je crois que cette rencontre, c'est pas très très bien passé. Alors il y a eu plusieurs phases, bien sûr, mais la première rencontre, après ce que vous dites, ça ressemble un petit peu à Aurélien d'Aragon. C'est un petit peu la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouve franchement laide. Mais
moi,
plutôt
c'est
vous, c'est le contraire.
Moi je dis
vous
ça.
Vous franchement con.
Franchement
c'est
ça con. Ouais. Absolument, absolument. C'est-à-dire que j'étais responsable du syndicat étudiant qui s'appelle l'UNEF. Qui était parce que maintenant je ne sais plus très bien comment c'est l'UNEF, mais bon voilà. Et je rentrais en deuxième année de sociologie puisque j'ai une maîtrise de sociologie et je venais accueillir les étudiants de première année et avec un discours. Et au fond de la salle, il y avait un mec avec des cheveux longs jusque-là, blonds, des grosses lunettes, et tout un barda de casques, de motos, d'écharpes, de blousons, et tout ça. Et à côté de lui, il avait un copain à lui qui avait une tête en afro, vous savez, c'était à l'époque d'Angela Davis, tout ça, là, voilà. Et je les remarque comme ça, je fais mon discours et puis je dis à la fin, si vous voulez adhérer à l'UNEF, je serai dans le couloir. Et il arrive dans le couloir et il me dit, bien parlé. Et je dis, quel est ce con? Voilà. Voilà comment.
Et ça fait 40 ans que ça dure.
Voilà, exactement. Et voilà comment on s'est rencontrés. Et c'était un grand cinéphile, mais il n'était pas parti pour faire ça. Il voulait faire une thèse sur la deuxième internationale. Et son professeur de thèse est décédé, malheureusement. Et je crois que. Et moi, de mon côté, j'entrais au conservatoire et juste avant d'entrer au conservatoire, j'ai tourné un film avec un réalisateur qui malheureusement lui aussi est décédé, qui s'appelait René Ferré. Et j'ai fait un film qui s'appelait La Communion solennelle. Et après, ce film a été en compétition à Cannes. C'était une époque, je vous parle d'un temps. Voilà. Et donc Ferré avait fait un truc génial parce que c'était un film très très choral et il avait invité tous les acteurs. On avait pris un autobus, on était descendu de Paris. En autobus jusqu'à Cannes et on avait monté les marches en chantant l'international. Faut quand même vous dire que c'est vraiment un temps bien fini. Et là, Robert m'avait accompagné et René Ferré lui a proposé de travailler avec lui sur un scénario parce que il voulait travailler à partir d'un roman d'Alfred Döblin qui s'appelle Alexanderplatz, mais il ne savait pas à ce moment-là que Fassbinder avait déjà les droits. Mais donc, ils ont continué à travailler ensemble. Ils ont écrit un scénario et puis Robert, en écrivant comme ça, s'est dit que il avait peut-être des choses à raconter lui. Et voilà, c'est parti comme ça.
Et c'est parti comme ça, Ariane Ascaride, entre vous, compagne, muse, actrice.
Non, pas muse, complice.
Pas muse.
Ah non, pas le muse. Non. Une muse, elle est un peu con, vous voyez.
Ah, pas forcément. C'est...
Non, mais je vais expliquer. Je vais expliquer.
Ah, pas forcément. Mais je vous laisse expliquer.
Une muse, c'est quelqu'un qu'on regarde, qui vous inspire, qui vous fascine. Qui est belle, qui a cette langueur ou non, qui est très naïve et tout ça. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je parle tout le temps, j'interviens tout le temps, c'est épouvantable. Non, je suis pas muse.
Précisément, entre vous, comment naissent les projets? Je prends le dernier film. Je prends la villa dans votre cuisine.
Mais exactement.
Hein, à Montreuil, la relation à la cerisée de Chekhov d'un côté. Et puis quelque chose de l'ordre de votre relation qui n'a jamais débouché sur quoi que ce soit au théâtre avec Paul Claudel. Il y a des choses comme ça qui se passent entre vous qui donnent des films.
Alors je peux vous assurer que je sais pas, parce que ça il m'en parle pas, parce que si vous voulez le deal, c'est quand même que Robert écrit ce qu'il a envie et moi en plus ça m'intéresse pas de savoir fur et à mesure les étapes. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un scénario fini. Je vois que par moments il dort pas, je vois qu'il peut se prendre le chou, des machins comme ça, mais j'ai pas envie de savoir fur et à mesure. J'ai envie de découvrir de la même manière que les autres acteurs. Donc la villa, par exemple, je pense que la villa, c'est son... Robert est un grand lecteur de Tchekhov. Nous sommes tous, toute cette bande-là, des amoureux de Tchekhov. Et il a toujours râlé beaucoup parce qu'on ne m'a jamais proposé de jouer Lyubov. Et ben voilà, c'est comme ça, on ne l'a pas proposé, c'est pas grave. Mais donc, il y a eu un peu, certainement, dans un coin de sa tête, ça. Mais après, les choses se transforment, vous voyez. C'est comment... Vous savez, les films de Robert, c'est un journal intime. C'est-à-dire, chaque film qu'il fait, si vous le regardez, vous allez vite savoir dans quel état il est. Et sur la villa, il y a comme ça un truc par rapport au temps qui passe. Mais il y a aussi... Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des petits-enfants qui arrivent de la mer et comment on se comporte et la proposition qu'il fait, lui. Vous voyez ? Donc, et puis la fratrie. Moi, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'est la fratrie. Parce que j'ai moi aussi dans la vie deux frères.
Et... Puisque dans ce film, vous jouez non seulement le rôle d'une comédienne, que vous êtes dans la vie donc, Ariane Ascaride, mais effectivement, elle a deux frères.
Oui, elle a deux frères et en plus, voilà, ça c'est pas du tout moi, elle a pas du tout envie d'être là. Pas du tout.
Après elle un accident très... cardiovasculaire de leur père.
Elle est très, très antipathique au départ. Et ça me plaisait bien d'être antipathique.
Parce que vous ne l'êtes pas dans la vie.
Je suis emmerdante, mais pas antipathique.
Est-ce que le fait de vous connaître, malgré tout autant, puisque ça fait 40 ans que vous êtes ensemble et que vous avez tourné 19 films ensemble avec Robert Guédiguian, et puis il y a aussi cette histoire de fratrie
avec Jean-Pierre amicale,
voilà, avec Gérard Bellan et Jean-Pierre Darroussin notamment, mais est-ce que le fait de se connaître aussi bien permet d'aller parfois plus loin, plus profondément? Est-ce que c'est une confiance avant tout, ou est-ce que parfois c'est aussi un handicap? Tu me connais trop bien, donc je ne peux pas aller là.
Non, c'est une aire de jeu extraordinaire. Entre Gérard et Jean-Pierre et moi, il y a cette envie chaque fois de se surprendre les uns les autres, et avec une liberté et une confiance. Vous savez, quand vous faites un film avec d'autres gens, déjà, la première chose, pendant les 15 premiers jours, il faut que vous persuadiez la réalisatrice ou le réalisateur de vous avoir pris, que c'était quand même pas un mauvais choix, parce qu'ils sont très anxieux, les réalisatrices et les réalisateurs, ils ont très peur. Et il faut que vous persuadiez vos partenaires pendant les 15 mêmes jours que ça va être pas mal de travailler avec vous. C'est une perte de temps inimaginable. Nous, il n'y a pas ça. Et on ne se parle pas. Vous voyez, moi je suis toujours fascinée par les... Quand je vais sur d'autres tournages ou tout ça, d'ailleurs je suis très polie, hein, j'écoute et puis je réponds même. Mais quand j'ai des partenaires qui me disent « Oui, alors à ce moment-là, tu vois, tu crois qu'à ce moment-là, il y aurait... il faudrait peut-être... Comment tu le sens? Comment tu la sens ?» J'en sais rien. Je ne sais pas parler comme ça, par exemple. Vous voyez, je pense que des fois, ça doit être peut-être un handicap pour mes camarades de jeu, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien. Moi, je ne peux pas parler 2 heures sur un personnage. Ça m'ennuie, mais à mort. Parce que la seule chose qu'il faut, c'est qu'il soit. Il faut juste qu'il soit. Et ça, c'est vrai que ça met du temps. On ne peut pas faire ça quand on a 20 ans. Il faut apprendre, c'est quelque chose qui s'apprend à lâcher, et avoir la pudeur de l'impudeur. On n'y arrive pas à ça. C'est un vrai travail, ça. Et du coup, parce que quand on se pose trop de questions comme ça, qu'on réfléchit, finalement, au bout du compte, on arrive à des stéréotypes de personnages. Et ce qui est important, c'est de trouver le personnage, celui-là. Celui que vous allez interpréter, en prenant en compte le fait que c'est vous, c'est-à-dire que c'est votre tête, c'est votre corps. On peut pas, Marie-Antoinette, avec toute la bonne volonté du monde, ça va être difficile. Vous voyez? Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça peut être une proposition de travail, mais pas une évidence. Et ce qui est important à un moment donné, c'est l'évidence. Si un jour je donnais des cours à des jeunes gens, c'est ça que je leur dirais. Parce que pour arriver à l'évidence, il faut être très courageux. Parce qu'il faut, il faut tout ouvrir, quoi. C'est pour ça que je dis toujours et ça, par exemple, les techniciens au théâtre, les bons techniciens savent qu'un acteur, juste avant de tourner, faut lui parler doucement. Parce qu'en fait, il est à nu. Il n'y a plus d'armure. Il n'y a plus rien. Vous pouvez le tuer en un quart de seconde. Et les bons techniciens savent ça. C'est pour ça que c'est très important, les habilleuses, les maquilleuses, les coiffeuses. C'est pas simplement pour être jolie, c'est aussi pour vous amener à traverser ce sas incroyable qui est que le matin, vous arrivez, vous êtes levé, vous êtes un peu fatigué, j'allais dire une expression qui se dit pas, mais bon, voilà. Et elle vous amène à être le personnage. Et ces emplois, qui sont la plupart du temps très souvent tenus par des filles, sont jamais reconnus à leur juste valeur. À part quand c'est un garçon qui est un très grand maquilleur, voyez-vous.
Voilà. Ariane Ascaride, vous disiez tout à l'heure que, en tous les cas, pour ce qui est des films avec Robert Guédiguian, vous n'aimiez pas savoir avant, vous vouliez être comme les acteurs, les autres acteurs du film, et que vous ne suiviez pas nécessairement les étapes de l'écriture. Vous avez, par ailleurs, vous-même, coécrit un scénario, le scénario de voyage en Arménie. Est-ce que vous n'avez jamais eu envie, tout simplement, de passer carrément derrière la caméra, alors, d'aller jusqu'au bout?
Je l'ai fait une fois.
Je veux dire, peut-être que vous l'avez fait et que ça m'a échappé.
Mais je l'ai fait une fois, mais pas au cinéma, à la télévision. Et en fait, c'était une belle histoire parce que, alors, le voyage en Arménie, c'est parce que la première fois qu'on est allé en Arménie, tout le monde demandait à Robert, parce que quand même, il y a beaucoup de boulot à faire en Arménie, sur le rôle des femmes et leur place. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et tout le monde demandait à Robert de faire un film sur l'Arménie. Et en fait, je pense que l'émotion était tellement grande de la part de Robert. Vous savez, c'est quelque chose de très étonnant de vous retrouver dans un pays qui a été, enfin, où il y a des racines, enfin, des machins comme ça. Et moi, je connaissais ça parce que moi, j'avais fait le voyage dans le même sens à Naples avec mes enfants. On était partis toutes les trois. Et c'est quand j'étais sortie, j'avais fait en train. Quand j'étais sortie de la gare, j'avais vu plein de filles qui avaient la même tête que moi. Je m'étais dit, donc, c'est bon. Là, c'est bon, je viens de là. Mais c'est très troublant parce que c'est indicible. Vous voyez? Et donc, quand j'écris, donc les gens demandaient à Robert. Robert n'arrivait pas à écrire. Et un jour, quand je tournais Brodeuse, j'ai eu une idée. Je lui ai téléphoné. Il m'a dit, écoute, écris-le. Si c'est bien, on le fait. Je l'ai écrit avec quelqu'un que j'adore et sans qui je n'aurais pas écrit, qui est Marie Desplechin. Et à l'intérieur du voyage en Arménie, et je raconte l'Arménie, comment je l'avais découvert, et aussi je raconte le rapport à mon père. Mon rapport à mon père. Et mon rapport à ce truc de la langue, de pas m'avoir appris une langue, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi que vous me demandiez?
Eh ben, aller jusqu'à réaliser. Donc, alors, vous l'avez fait une fois pour un téléfilm.
Voilà, c'est, on m'a demandé de réaliser, une nouvelle. Et d'ailleurs, c'est Baya Kasmi qui a fait l'adaptation de cette nouvelle. Une nouvelle de Baya Kasmi qui est une très grande, scénariste et une jeune réalisatrice qui est assez étonnante, qui fait des films avec un réalisateur qui s'appelle Michel Leclerc. Et c'est l'histoire d'une petite fille sans papier qui veut devenir présidente de la République française. Et ça s'appelle « Ceux qui aiment la France ». J'avais fait ça pour France 2. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Mais ce qui est problématique, c'est que il faut vraiment... Cette histoire-là me parlait énormément. Et j'arrive pas à trouver un autre truc pour écrire, pour faire un, je dis pas que je referai pas, mais je n'arrive pas à trouver un truc, vous savez, sur certains trucs, c'est des élans, quoi. Il faut que j'ai un élan. Pas dans mon métier de comédienne, mais pour faire autre chose, il faut que j'ai un véritable élan. Et là, voilà, j'ai pas d'élan, pour l'instant.
Pourtant, il y a des sujets.
Mais il y en a plein.
Qui vous motivent. Mais il y en a. Oui. Qui vous meuvent, oui. Qui vous émeuvent.
Il ouais, y en a plein, mais
on
j'arrive.
On n'en manque pas.
J'arrive pas à trouver le. Alors, bon, auteur, autrice. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez. Voilà.
Ariane Ascaride, qu'est-ce que vous attendez, puisque vous avez eu cette position à un moment d'être derrière la caméra, d'être réalisatrice, et que vous avez habituellement la position de l'autre côté, d'être devant. Qu'est-ce que vous attendez d'un réalisateur? Alors, venant de Robert Guillon, c'est peut-être un peu particulier, mais comment concevez-vous cette place de la comédienne? Est-ce que vous êtes créatrice?
Tout comédien est créateur. Un comédien, c'est un auteur. Vous voyez, un vrai comédien, un vrai acteur ou actrice, enfin, comme vous voulez. Alors, c'est très compliqué parce que un réalisateur, une réalisatrice, moi j'adore faire des premiers films par exemple. Parce que c'est tellement chargé pour eux quand ils commencent à faire ce film-là. Ils veulent tellement dire de choses. Et c'est ça qui est très émouvant. Et au bout d'un moment, le film les submerge. Il y a un moment pendant le tournage où vous voyez que ça les submerge, parce qu'au départ, ils arrivent, ils ont tout bien préparé, leur storyboard, leur plan, comme ça, ceci, cela, leur première semaine, c'est paf, paf. Tu dis, tu crois pas qu'on pourrait faire, non. Et la deuxième semaine, quand tu dis, tu crois pas, peut-être on pourrait, ah ouais, peut-être bien. Et ça, c'est très, très beau, quoi. Vous voyez? Alors, moi, ce qui m'intéresse avec un réalisateur ou une réalisatrice, c'est de partir dans son monde. Si je dis oui, je suis au service. Mais vraiment au service. On peut me demander n'importe quoi. Mais il faut que j'ai dit oui. J'ai toujours, même quand j'avais pas beaucoup de travail, j'ai toujours voulu garder ce luxe-là. De ne faire que ce que je voulais. Que ce que j'avais vraiment envie de faire et de défendre. Donc ça, c'est un truc que j'ai gardé maintenant aussi. Mais, par exemple, l'année dernière, je me suis fait avoir sur un film en Italie et je suis toujours en colère.
Ça veut dire quoi, se faire avoir sur un film?
Parce que je suis partie sur un propos et je suis arrivée sur un autre. Et sur une manière de travailler que je n'avais pas prévue. Et je suis toujours en colère. Ça s'appelle se faire avoir, vous voyez? Et bon, ben ça arrive dans la vie et peut-être ça m'a appris des choses aussi, d'ailleurs. Hein. Donc, voilà. Mais c'est tellement une inquiétude tellement immense pour un réalisateur ou une réalisatrice de commencer un film. C'est ça que les gens ne mesurent pas. Ces gens-là, ils n'ont... Tout le monde est à leur service, l'équipe, les acteurs. Ils doivent toute la journée dire oui ou non. On leur propose un truc, c'est oui ou non. Une couleur, c'est oui ou non. On fait ce plan-là, c'est oui ou non. Et tout le monde attend qu'ils disent ou qu'elles disent « on fait ça ». On fait ça. Les acteurs attendent qu'ils disent ou qu'elles disent je préférerais que tu le joues comme ça. C'est un truc de fou. C'est ça qu'il faut bien mesurer. Mais en fait, c'est comme les auteurs, quoi. Alors, un auteur qui écrit chez lui, effectivement, il n'a pas derrière l'équipe machino, l'équipe électro, toute l'équipe de maquillage et tout ça, les acteurs qui sont là comme ça. Mais alors, on fait quoi? Mais alors, en plus, un acteur, c'est souvent inquiet. Mais t'es sûr que c'est ça que tu voulais? Parce que je me demandais si tu veux pas qu'on en refasse une. Parce que là, peut-être, là, j'ai pas été vraiment à la hauteur. Savoir dire non. Savoir dire on arrête. Ça dort pas, un réalisateur ou une réalisatrice quand ça tourne. Hein. Ça dort pas. C'est toute la journée, toute la nuit, ça tourne. Enfin, un bon. Voilà.
Anna Scarrette, vous parlez des auteurs, du travail du réalisateur comme d'un auteur, peut-être aussi d'ailleurs de l'acteur comme d'un auteur, un créateur. Il se trouve que par ailleurs, vous êtes une grande lectrice, vous-même. Vous donnez un certain nombre de vos livres de chevet, de vos livres de prédilection dans ce livre que vous avez écrit à deux mains avec Véronique Olmy qui vous interroge sur votre rapport à la littérature, une force et une consolation. Juste un mot sur ce titre déjà.
Ben, ça dit tout. C'est-à-dire que lire me permet de me reconstituer, il y a des personnages dans des romans qui m'ont tellement fascinée que j'avais envie d'être comme eux, donc ça me donnait de la force. Et après, bon, je la saisonnais à ma sauce, quoi, mais et une consolation parce que la lecture, c'est une chose qui me permet de m'isoler, et ça m'a permis, dans un temps de ma vie, de m'isoler de choses qui étaient parfois difficiles et violentes. Et ça m'a consolée. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, ça m'a fait rire parfois, ça m'a fait pleurer. C'est génial la lecture. Voilà, c'est juste génial.
Vous qui travaillez beaucoup, et vous nous l'avez dit, avec les émotions, avec le corps, avec les sentiments, est-ce que justement vous allez puiser ce type d'émotion dans les personnages littéraires romanesques?
Oui,
est-ce que ça nourrit votre travail?
Oui, bien sûr, et même plus qu'avant encore. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis rendu compte que je pleurais plus souvent qu'avant maintenant en lisant. Avant, je pleurais pas. Et maintenant, je pleure. Il y a des livres qui me font vraiment pleurer, vous voyez. Je suis bouleversée. Et après, la personne qui va entrer dans la pièce où je suis en train de lire en me disant à quelle heure c'est le rendez-vous, je la pourris, quoi. Je l'insulte parce que c'est un choc avec la réalité que j'ai pas du tout envie d'avoir. J'ai besoin de m'extraire par moments de la réalité. Je dis dans ce livre que je suis la fille de Peter Pan. Mon père avait un rapport complètement fou ou pas à la réalité. Et bah voilà, j'en ai hérité un morceau. Il faut de temps en temps que je sorte de la réalité. Je m'invente des histoires tout le temps, mais tout le temps. Là, pendant que je vous parle, j'invente.
Vous voulez dire que rien n'est vrai dans ce que vous nous racontez ?
Non, tout est vrai. Non, tout est vrai. Mais j'ai besoin de toujours... Vous voyez, quand ça sera fini, là, hop, je vais dans ma tête remettre toutes les choses en place, me dire, ah oui, il y avait une dame, elle était assise sur la marche, il y avait un monsieur, puis après, il est parti. Je me refais tout un truc, vous voyez ?
Il portait telle chaussure,
voilà,
etc.
Voilà, tout ça. C'est ça.
Ariane est une amoureuse du verbe, une lectrice passionnée et intranquille, une sauvée par la littérature. Elle sait que la fiction dit le réel, que le mensonge littéraire est vérité, que la vérité est vertige, et elle joue comme on survit. Elle lit comme on respire, elle nous raconte des histoires, elle se raconte des histoires, car c'est ainsi depuis la nuit des temps, c'est ainsi que l'on vient au monde et que l'on y survit. Elle a bien vu les choses, Véronique Olmy, en écrivant ça ?
Mais Véronique Olmy, elle est magnifique, elle est formidable. On se connaît depuis... Je ne l'aurais pas fait si ça avait été quelqu'un d'autre qu'elle. Parce que, dans une certaine mesure, pour moi, je me sens très illégitime de voir ma tête sur la couverture d'un livre. Et c'est un truc incroyable, ça, parce que je ne devrais pas. Mais je me dis, il y a des gens qui... Moi, j'ai un rapport un peu sacré à la littérature. Et je me dis, c'est tellement... Quand je vois Véronique ou Marie, comment elle travaille, quand je sais ce que ça veut dire, je me dis, mais attends, c'est de la petite bière, qu'est-ce que tu fais là ? Comment elle manie le verbe, ou comment d'autres aussi, que ce soit Anna Segers ou Balzac ou Flaubert ou...
Tchekhov
ou Carson McCullers.
Voilà les quatre auteurs que vous emporteriez, dites-vous,
ouais,
dans ce livre.
Ouais. Je me sens un peu illégitime. Ouais, je sais parler, ça oui, je crois que je sais le faire. Mais écrire, c'est un autre travail. Et c'est un très beau travail. Et il faut avoir du respect pour ça, quoi. Énormément de respect. Donc, je l'ai fait parce que c'est aussi une manière de concrétiser ce rapport d'amitié très profond qu'on a, Véronique et moi. Quand je serai morte, ça existera toujours. Peut-être dans une bibliothèque, n'importe où, mais ça existera, ça prouvera bien qu'on était très amis. Ça sera mieux que de le dire. Ça sera écrit.
Ça, et puis les films, Ariane Ascaride. Et il se trouve que, il paraît en tout cas, que vous passez votre temps à regarder des films d'avant-guerre. C'est vrai, ça?
Oui, c'est vrai. J'adore ça. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que j'adore Paris. Moi, fille du Sud, que j'adore ma ville, j'adore Marseille, ma ville de naissance, mais j'adore Paris, mais Paris avant-guerre. Et puis un peu après, même dans les années 60, 50, 60, c'est-à-dire ce Paris avec les monuments qui sont gris, qui sont pas tout, vous voyez, nettoyés, bien propres et tout, Paris avec un éclairage urbain qui n'est pas le même qu'aujourd'hui, et Paris avec un accent. Il n'y a plus d'accent à Paris.
Le Titi parisien, vous voulez dire, par exemple ?
Mais Jean Gabin, ma chère. Jean Gabin. Écoutez parler Jean Gabin. Jean Gabin a un accent parisien absolument sublimissime. Mais sublimissime. Et puis, je crois aussi que c'est un rapport entre les gens. Une manière de communiquer, d'être entre les gens qui me convient beaucoup mieux. Je suis quelqu'un qui vient d'un monde populaire. Je suis quelqu'un qui a joué sur les trottoirs quand elle était petite. Je suis quelqu'un qui peut parler avec n'importe qui. Je ne regarde pas d'où il vient, c'est juste une personne. Et si vous voulez, dans les films d'avant-guerre, alors au contraire, c'est tellement marqué, il y a les prolos et les riches, et c'est tellement rigolo, quoi, presque pas possible, quoi. Ces filles qui descendent de voiture ou qui promènent sur l'avenue Foch, et puis les autres qui sortent du métro avec toujours un petit paquet plié dans du papier journal avec de la ficelle et des vestes élimées. Ça me va très bien, quoi. Ça me va très bien. Je me sens bien. Et ça n'a rien de passéiste. Je vais très bien quand je me retrouve dans une cité dans le 15e à Marseille. Moi, j'ai pas de problème, hein. C'est parce que dans une cité à Marseille, il y a 10 cons, mais il y a 3500 personnes formidables. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Jamais. Et ces 3500 personnes formidables, elles sont obligées de se taper les 10 cons qui les empêchent de vivre. Et c'est terrible pour un petit jeune homme qui fait ses études ou une petite jeune fille quand il va dire qu'il vient de la Castellane ou des machins comme ça à Marseille. Où on ne fait que se tuer, évidemment. On ne fait que se tuer. Tous les jours, on se tue. Si vous écoutez la radio, c'est ça. On se tue tous les jours. Non, il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont dans une PMI, qui soignent les enfants de ces cités, il y a des gens qui font des choses formidables, il y a des associations, des tas de trucs comme ça. Et tout ça parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on nous donne tout le temps des visions un peu tronquées de la réalité. Donc, j'ai juste envie de dire, marchez donc dans votre ville. Parce que j'adore marcher, hein. C'est assez rigolo que je lise ça. Moi, j'adore marcher.
Vous allez lire L'art de marcher de Rebecca Solnit,
voilà.
Au Festival du Marathon de Nîmes.
Pour connaître une ville, il faut marcher. Il faut pas prendre sa voiture, aller d'un point à l'autre, ou aller au centre commercial, faire les courses, remonter dans la voiture. Non. Aller chez l'épicier du coin, ouais, c'est un peu plus cher, mais au fond, pas tant que ça. Et vous connaîtrez d'autres choses. Et vous parlerez peut-être dans l'épicerie, avec l'épicier. Et vous parlerez peut-être avec les gens qui viennent faire les courses en même temps que vous. Parce que tant que vous recommencerez pas à parler ensemble, ça n'ira pas.
Et de ce point de vue-là, Ariane Ascaride, le cinéma est un prolongement de cette conception du monde, de la façon dont, je sais pas, d'une appréhension d'une réalité du monde.
En tout cas, ça aide. Vous voyez, parce que ça m'aide, par exemple, parce que moi j'ai fait le tour du monde, moi qui ai peur en avion. Moi, j'ai fait le tour du monde avec un film qui s'appelle Marius et Jeannette.
Pour lequel vous avez eu le César de la meilleure actrice en 98.
Merci.
Il fallait quand même le rappeler.
Merci. Et ce film-là m'a permis de rencontrer des gens dans le monde entier, mais vraiment dans le monde entier, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Australie, qu'aux États-Unis, que dans toute l'Europe. Enfin, voilà, il n'y a qu'en Inde. Je ne suis pas allée en Inde, je le dis sincèrement. Et en fait, vous vous rendez compte que tout le monde a à peu près la même manière de réagir. Ça se dit dans une autre langue, donc les gestes sont peut-être pas les mêmes, et la manière d'aborder la chose n'est peut-être pas la même, mais le sentiment est le même. Et ça donne une sensation d'universalité qui, moi, me va très bien, qui me rassure sur l'homme. Vous voyez, c'est formidable, quoi, de pouvoir discuter avec quelqu'un à Valparaiso, quelqu'un que je n'ai plus jamais revu et que je n'avais jamais vu avant, et de parler de trucs tout à fait anodins. Et ça allait très bien. On pensait la même chose.
Mais est-ce que vous pourriez jouer un rôle, le rôle d'une femme avec laquelle vous ne seriez pas du tout, mais pas du tout d'accord politiquement?
Mais j'en rêve. Ah oui, j'aimerais beaucoup faire ça.
Donc un appel, un deuxième appel. Alors, auteur et autrice, cette fois, mais
deuxième appel à jouer vraiment... une bonne femme que j'exécrerais dans la vie.
Qui serait aux antipodes de vos convictions.
Ah oui, j'aimerais. Il y a deux choses que j'aurais faire. Ça et jouer une princesse, une vieille princesse.
Pourquoi vieille?
Parce que plus tard, vous savez, dans les films de Visconti, il y a souvent une vieille comtesse ou une vieille princesse. Je les adore. Et je rêve de ça. Je rêve de faire ça. Vraiment, vraiment. Simplement, les gens croient tout le temps que je ne parle que comme sur le vieux port à Marseille, ce qui est, vous pouvez l'entendre, ce qui n'est pas vrai, que je ne peux faire que des films où à un moment donné il y aurait une manifestation ou je ne sais quoi.
Comme quoi,
vous voyez, la France est un pays très très plein de catégories. Et non, je peux vraiment jouer autre chose.
Ariane Ascaride, avant de jouer une vieille princesse, vous allez continuer à faire ce que vous faites. Vous avez joué une comédienne qui, malgré tout, a votre âge dans Robert Desguillon, La Villa. Et vous avez signé il y a quelques mois, en mai 2018, une tribune collective sur l'invisibilité des comédiennes de plus de 50 ans.
C'est vrai,
dire que 6% des rôles attribués en 2016 l'avaient été à des comédiennes de plus de 50 ans. Comment le vit-on, ça? Vous allez me dire très mal, certes, mais au-delà de ça...
En fait, moi, je le vis pas très mal parce que, quand même, moi, j'ai de la chance. Vous voyez?
Peut-être ça aide d'être avec Robert Guédiguian, de ce point de vue-là, qui continue de vous faire tourner beaucoup, beaucoup. Non?
Faut pas le dire comme ça, parce que sinon, je vous raconte pas quand je vais rentrer à la maison. Non, mais ce qui est formidable, c'est que cet auteur-là, lui, il a envie de raconter sa génération. Donc, effectivement, on continue tous ensemble. Le truc qui est quand même dingue, c'est que quand vous regardez un film, La plupart du temps, l'acteur qui a les 50, entre 50 et 60 ans, et des fois 60 ans passés, il a une femme qui a 35 ans. D'accord ? Toujours. Quand vous regardez une fille qui a 65 ans, qui serait le rôle principal, elle n'a pas de mari. Elle n'a plus. Et alors, rencontrer un jeune, oui, mais de toute façon, ça ne va pas marcher. Vous voyez ? Et de toute façon, dans des couples comme ça de cinéma, tels qu'ils sont définis, effectivement, une fille à partir de 50 ans, elle rame comme une malade. Et je ne vous parle pas aux États-Unis, nous sommes chanceuses. Mais il y a quand même un truc qui est fou, c'est que la plupart, le public de cinéma, il est d'abord particulièrement féminin et il a plus de 50 ans. Donc on ne parle jamais d'elle, en gros. On parle jamais, jamais des préoccupations, parce qu'à 50 ans, la vie n'est pas finie, parce qu'il y a des tas de choses à faire, parce qu'il y a des tas de préoccupations, parce qu'il y a des tas d'angoisses, parce qu'il y a des tas de trucs qu'on n'a toujours pas résolus. Donc, si vous voulez, c'est pas possible, ça. Mais il y a un mouvement dont vous avez peut-être entendu parler des réalisatrices, ça s'appelle 50-50, hein, qui, elles aussi, se battent et... On a monté les marches à Cannes, hein, les 82 femmes qui ont monté les marches, mais qui se battent pour qu'effectivement y ait des réalisatrices, autant de réalisatrices que de réalisateurs qui puissent faire des films, ce qui n'est toujours pas le cas, toujours pas. On est monté à 82 parce que ça veut dire qu'il y a eu 82 femmes qui ont été, depuis que le Festival de Cannes existe, sélectionnées. Et je ne vous dis pas le nombre d'hommes. J'aurais peur de dire une bêtise sur les chiffres, vous voyez, mais c'est 6 fois 82, minimum. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce truc-là est fondamental, et ce n'est pas fini, et ça va prendre beaucoup de temps, parce que ça ne se règle pas en 6 mois. Parce que les mentalités, ça fait 2000 ans qu'on a une énorme pierre sur la tête. Et les hommes aussi. Moi, les hommes ne sont pas mes ennemis. Les hommes et les femmes ont une énorme pierre sur la tête. Il va falloir arriver à la soulever pour nos enfants, pour nos garçons et pour nos filles. Et on peut le faire, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc ça ne se règle pas en 2 coups de cuillère à peau, hein, vraiment pas. Et c'est une attention de tous les jours et de tout le temps.
A un intérêt d'en arriver au terme de cette masterclass, de cette discussion d'une heure, avec des questions qui portent plus sur votre rapport au public. Alors on en profite, puisque ici justement, quand on enregistre cette masterclass à Toulouse, la salle est pleine. Mais vous disiez tout à l'heure que vous étiez une femme populaire. Est-ce que vous vous revendiquez comme une actrice populaire? Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Au sens aimé, au sens aussi populaire dans la rue, disons.
Je suis quelqu'un de populaire, oui. Et quand je vous vois en face de moi là, je me dis que, et c'est pas que moi toute seule, c'est aussi ce qu'on a fait tous ensemble depuis longtemps avec cette bande incroyable. C'est que on est arrivé, pas tout le temps, mais assez souvent, à faire entendre aux gens que le monde populaire est un monde d'une immense dignité. Et c'est ça l'important. Les classes laborieuses sont extrêmement dignes. Et il ne faut jamais l'oublier. C'est tout.
Vous êtes nostalgique, vous vous dites nostalgique en tout cas. Vous vous dites porté par la révolte et la nostalgie. Quand vous vous retournez sur votre parcours, quand vous le regardez, qu'est-ce que vous vous dites?
Que j'aurais jamais dû être où je suis aujourd'hui en train de vous parler. Que j'ai eu une chance inimaginable. Je vous assure, et c'est ça qui est génial dans ma vie, c'est que d'être là avec vous ce matin, normalement c'était pas du tout prévu ça dans l'organigramme. Et oui, c'est vrai, je me suis beaucoup battue, mais beaucoup battue, parce que quand je suis rentrée au conservatoire, ça a commencé là, je correspondais pas physiquement à ce que c'est une actrice française. Et après, quand je suis sortie du conservatoire, Bluval m'avait dit, ça va être difficile, ma poule. Ça va pas marcher tout de suite. Je lui ai dit, merci, c'est sympa. Et c'est vrai. Il a eu raison. Mais ça a marché sur mes bases à moi. Sur ce que j'étais moi. Sur ce que nous avons fait. Je peux vous dire qu'il y a certains soirs où on a beaucoup pleuré. Moi, particulièrement. Plusieurs fois, je me suis dit, je fais ma valise. Je m'en vais, je redescends dans le sud. Ça ira, je ferai autre chose, je m'en fous. Mais là, j'en peux plus. Et ça m'arrive encore aujourd'hui, des fois, dans certains festivals ou des machins comme ça, où je vois des choses. Mais bon, là, je m'aide beaucoup. Où je me dis, Mais vous continuez à faire comme ça. Vous n'êtes pas fatiguée de fermer la porte à des jeunes gens ou à des jeunes filles qui ne viennent pas du même milieu que vous? Ça ne vous ennuie pas? Vous ne pouvez pas ouvrir et écouter ce qu'ils vont vous raconter? Vous voyez, ça c'est vraiment un truc qui me... C'est un truc qui toujours me met en colère et contre lequel je me battrai jusqu'à la fin de ma vie. C'est tout. Je n'ai qu'une vie. Une seule. C'est pas beaucoup, hein. Je ne veux pas la subir. Je veux qu'elle soit ma vie et pas la vie de quelqu'un d'autre. Bon.
Ariane Ascaride, avant que les applaudissements commencent, j'ai senti qu'ils allaient monter. Avant que les applaudissements commencent, juste une dernière question, puisque vous rêvez de jouer une vieille princesse, et puis vous rêvez de jouer aussi une femme qui serait aux antipodes de vos convictions. Est-ce que, malgré tout, dans ce que vous n'avez pas fait, que vous ne pourriez peut-être plus faire, est-ce qu'il y a des rôles, des personnages que vous regrettez de ne pas avoir joué, ou des auteurs aussi?
Je regrette deux choses. Je n'ai pas joué la bonne âme de Sichuan, que j'ai travaillé tout mon temps où j'étais au conservatoire. Je suis entrée au conservatoire avec la bonne âme. Je suis sortie du conservatoire avec la bonne âme. Je connais la bonne âme par cœur. Nous avons écrit un spectacle avec Marie Desplechin qui s'appelle Touchée par l'effet, qu'a mis en scène Thierry Tionian, où je parle de ça, de la bonne âme. Je regretterai toute ma vie de ne pas avoir fait la bonne âme. Toute ma vie. Et Nina, de la mouette. Voilà. C'est les deux choses. J'ai pas pu le faire. C'est comme ça. On va pas pleurer des heures et des heures, ça sert à rien. Mais peut-être que personne n'a fait Jeannette, que personne n'a fait Marie-Jo. Et voilà.
Là, je vous reconnais bien dans le renversement vers le positif. Merci beaucoup à vous. C'était la masterclass d'Ariane Ascaride avec Caroline Brouet. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Djergaillant.